Très bien, eh bien nous allons reprendre avec l'intervention de Catherine Perret. Catherine Perret est ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de l'université et doctoresse lettres. Elle a été maître de conférences à l'Université Paris 10 Nanterre de 1990 à 2011, avant de devenir professeure d'esthétique et de théorie des arts à l'Université Paris 8, où elle enseigne actuellement. Elle a également été directrice de programme au Collège international de philosophie de 1995 à 2001. Outre de nombreux articles, elle a publié « L'enseignement de la torture, réflexion sur Jean Emery » aux éditions du Seuil dans la bibliothèque du XXIe siècle en 2013, Walter Benjamin, sans destin, à Bruxelles, dans la lettre volée, en 2007. Les porteurs d'ombre, Mimesis et modernité, édition Belin, dans la collection L'extrême contemporain, en 2002. Incompatible, une peinture sans qualité, aux presses du réel, en 2006. Olivier Mosset, la peinture même, aux éditions Id et Calande, en 2004, à Lausanne. Et Marcel Duchamp, le manieur de gravité, en 1999. Le titre de son intervention est « Traces et cartes », R-A-I-R-E-S et R-E-2-R-E-S, chez Fernand Deligny. Elle prépare d'ailleurs un ouvrage sur ces questions.
Merci. Merci à Alain Fleischer et à Alain Prochiantz de cette invitation à contribuer à cette réflexion. Et pour reprendre les mots d'invitation à ces journées, il est vrai qu'il est très frappant de voir que la question de la forme est devenue quasiment taboue dans le champ des arts et qu'elle y revient grâce à la réflexion scientifique et notamment grâce aux sciences du vivant. Et c'est cette piste que j'aimerais emprunter ce matin en m'intéressant ici à la forme comme forme de vie. Et je voudrais vous parler, dans quelques temps, de cartes destinées à révéler la forme d'un certain milieu vivant, milieu humain, milieu qui s'est développé sous l'inspiration de Fernand Deligny durant 30 ans, entre 1967 et 1996, et dont la caractéristique est d'avoir été cultivé, ou d'avoir poussé, je ne sais pas comment il faut dire, entre des enfants diagnostiqués autistes infantiles précoces, classés incurables par la psychiatrie, enfants mutiques, privés de tout accès au langage, et de sujets parlants, adultes, tâchant non pas de les guérir, mais de vivre proche d'eux. Poser la question de savoir comment donner forme à un tel milieu de vie, à sa réalité atmosphérique, épidermique ou encore mélodique, c'est s'interroger de nouveau sur ce que Canguilhem appelle les allures de la vie. Ces allures qui tiennent à ce que la vie va, en donnant forme à une série de choix, prendre ceci, rejeter cela, choix qui établissent un milieu de vie propre à cette vie-là. C'est également se souvenir que les choix vitaux opérés par cette vie peuvent impliquer des inventions formelles, irrégularités anatomiques, difformités, monstruosités, qui constituent d'authentiques mutations morphologiques, dès lors qu'elles manifestent des potentialités inédites de cette vie, pour prendre position et se reproduire au sein d'un environnement nouveau, voire hostile. Le milieu est normal, écrivait Canguilhem, pour une forme vivante donnée, dans la mesure où il lui permet une telle fécondité et corrélativement une telle variété de formes que le cas échéant de modification du milieu, la vie puisse trouver dans l'une de ses formes la solution au problème d'adaptation qu'elle est brutalement sommée de résoudre. C'est ainsi que les formes de vie d'une espèce peuvent être amenées à s'interroger les unes les autres et que les enfants de Deligny nous permettent de nous voir ailleurs que là où nous croyons être. Canguilhem, dans sa réflexion, se situe directement dans la lignée de Jacob von Uxküll, ce célèbre éthologue des années 20, et qui défendait la thèse suivant laquelle le vivant se développe en créant des formes et en se donnant forme, thèse qu'il illustre par quelques schémas où l'on voit les différentes formes d'un même environnement perçues par différentes espèces. Alors je vous montre quelques-unes de ces illustrations. Ici, à gauche, la photographie d'une rue de village vue par l'œil d'un homme, en dessous, par l'œil d'un homme, mais à travers une grille. À droite, la même rue vue par un œil de mouche et en bas, par un œil de mollusque. Ici, à gauche, en haut, l'environnement de l'oursin, le monde objectif où vit l'oursin, et en bas, le milieu de l'oursin, ce que perçoit l'oursin. À droite, en haut, l'environnement de l'abeille, et plus bas, le milieu de l'abeille, ce que voit l'abeille. Ici, en haut, la chambre du chien, et puis plus bas, la chambre de la mouche, et enfin, la chambre de l'homme. Et pour repasser à notre espèce, vous avez ici, en dessous, le lointain d'un adulte, et au-dessus, le lointain d'un enfant. Si j'évoque ici les enfants, c'est qu'à la même époque que Uxküll, des recherches sur le dessin d'enfants, comme celle notamment tout à fait précurseur de Olivier Luquet, puis d'ailleurs de Henri Wallon, ont montré le même processus de singularisation du milieu créé par l'individu au sein de l'environnement. Et comment, au fur et à mesure de son développement sensorimoteur, chaque enfant réinvente l'espace-temps orthonormé des adultes à partir d'un itinéraire unique et repérable à la manière dont cet enfant conquiert un espace graphique propre sur l'espace physique de la feuille. Alors, quelques exemples de ce trajet singulier de chaque enfant pour conquérir véritablement la distinction entre son espace graphique et l'espace de la feuille physique. Voilà, on part du tracé circulaire d'un enfant de 20 mois. Là, on passe de la constitution de forme isolée, mais projetée simplement sur l'espace de la feuille physique. Et là, soudain, apparaît un bonhomme maison, hein, c'est-à-dire un contour qui, au sein de la feuille, est à la fois un lieu d'habitation et le corps de l'enfant, premier signe que l'espace graphique apparaît. Et puis là, vous avez, alors tout à fait clairement, par contre, ce contour de l'espace graphique représenté dans l'espace physique de la feuille. Et ensuite, alors, vous avez différentes interprétations, hein, de cet espace graphique. Ici, un enfant visiblement soucieux d'orientation, gauche-droite, haut-bas. Ici, un enfant qui s'interroge sur la manière dont l'espace graphique est en miroir par rapport au monde objectif. Ici, vous avez le modèle de la superposition. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, le haut et le bas. Ici, vous avez la vue d'avion, c'est-à-dire, au fond, comment on peut tout saisir d'un même œil dans le même espace. Et puis, le problème, évidemment, de la distance, l'espace perspectif ici, et puis ici, l'espace de la trace, du proche et du lointain. Donc, on voit autant, ici, d'interprétations par des enfants de, au fond, leur propre espace graphique. Autant de formes singulières. Mais la vie et ses milieux prennent parfois des formes imperceptibles. C'est notamment le cas chez ces enfants, dont Doligny et ses compagnons ont pris soin, enfants chez lesquels la stéréotypie, c'est-à-dire les comportements itératifs, semble avoir remplacé l'invention, contrairement aux enfants qu'on vient de voir, aussi bien dans les comportements que dans leurs dessins. Des ronds à l'infini et à l'identique, voilà ce qui se présente à première vue. Je vais vous montrer une espèce de petit rapide montage du début du film de Fernand Deligny, Ce gamin-là, où l'on voit Jean-Marie, enfant confié en 1967 à Deligny, intégralement muet, et pour lequel toute forme de relation par le geste, la parole, le regard, constitue une forme d'agression qui le pousse à l'auto-agression, au point que la vie devienne pour lui, hein, et avec lui surtout, totalement invivable, comme dit Deligny. Et d'autant plus invivable que, contrairement à ce qu'on croit généralement, cet enfant, hein, est dépourvu de tout instinct de survie, il se laisse littéralement mourir de faim. Alors, je vous montre ces rapides extraits pour que vous ayez une idée du contexte et de l'idée directrice de cette entreprise.
L'immuable. Séquence de Deligny, A1, première.
Parlez.
Parlez. Parlez comme
comme si c'était au naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent, alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier ? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut ? Le langage. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace pendant des mois. Sa main a tracé des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient, nos yeux, ce que notre regard était capable de voir, de saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse, sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant-là tourne autour de rien, sur rien, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait, ce lui-même, qu'il se chercherait. Nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné, ni bien ni mal, au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage, sa mère me l'a dit. Il n'a jamais tendu les bras, pas l'ombre de l'autre, jamais, dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit, et que j'ai dit et redit, inlassablement, immuablement, à nous autres, à ce nous autres, là, ce que j'ai dit et rabâché, c'est nous qu'il cherche. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus.
Voilà donc toute la question, en l'occurrence, c'est de comprendre évidemment le parallélisme entre ces deux espaces, entre le là de ce gamin et le là où nous sommes, le nous désignant en l'occurrence non seulement de l'ini et les jeunes adultes qui vivent avec lui, mais l'évidence vécue par tout un chacun qui se dit humain, du nous de la communauté vivante des sujets parlants. À supposer, comme l'indiquent des phénomènes comme l'autisme, que le commun de cette communauté soit moins évident qu'il n'y paraît, comment construire un lieu commun en l'absence d'espace commun ? Comment repérer des formes de vie communes là où les uns et les autres ne partagent même pas le même milieu ? Et cela parce que les uns parlent et les autres non, parce que, pour les uns, tout fait signe, tandis qu'aux autres, rien ne parle. Telle est la question qui conduira Deligny et ses compagnons dans les Cévennes en 67. Nous sommes partis, écrit-il, à la recherche de ce qui pouvait nous manquer pour que ce nous-là, à leurs yeux, soit inexistant. Pas tout à fait. Et bien sûr, la recherche de Deligny est aimantée par ce pas tout à fait. La question est donc de savoir non pas ce qu'ils ont, mais ce qui nous manque, et cela non pas en termes de savoir psychologique ou d'humanité, mais de manière plus primordiale, en termes de réel, de ce qui manque à notre présence pour devenir perceptible à l'enfant autrement que par ces flashs imprévisibles que nous n'arrivons même plus à percevoir. Et cela, on ne peut le détecter qu'à partir de ces moments où, par hasard, par inadvertance, quelque chose d'un geste, d'un rythme, d'un émoi passe entre eux et nous. Mais ces moments, comment les voir ? Comment voir ce lien éphémère, imperceptible, qui manifeste l'existence d'un milieu commun entre nous, hors ce qui est supposé définir le milieu humain, à savoir le lien social ? La réponse à cette question, Deligny la cherche en restant au ras des choses. Il regarde la forme que prend l'agir de l'enfant qui tourne et qui trace en rond. Et plutôt que de faire signifier cet en rond, autour de quoi, de quel vide, de quelle absence, il le surligne, ce rond, en tant que forme, indiquant l'équivalence entre tourner et tracer. Tourner pour cet enfant, c'est tracer. Par-delà ce que nous identifions comme une sorte de répétitivité pétrifiée, l'enfant trace, au sens littéral de ce mot, il est sur les traces d'eux, il est à la recherche de quelque chose qu'il ne perçoit pas, il piste. D'où l'expression de ligne d'air employée par Deligny pour décrire les déplacements de ses enfants, puisqu'on sait bien clair, ce sont les traces que laissent les animaux lorsqu'ils sont à la chasse leur vagabondage forme ces espèces d'air qui ne sont pas de l'errance, précisément. Le milieu des enfants accueillis par Deligny est donc constitué de traces. Et si nous n'y sommes pas repérables, ou seulement par hasard, c'est faute de savoir ce qui, de nous, fait tant soit peu trace. Faute d'attention à cette fonction humaine qu'est le faire trace. C'est alors que, plutôt que de développer une étude psychologique sur l'autisme, Deligny s'engage dans une recherche topographique et topologique qui prend la forme de cartes réalisées par les jeunes adultes qui vivent avec les enfants sur ce que Deligny appelle des aires de séjour qui sont isolées au sein de ce territoire qui est grand d'une vingtaine de kilomètres carrés. Des cartes qui sont destinées à donner forme au milieu émergent par instant, par bouffée, entre eux-là et nous-là. Ces cartes retracent de mémoire, parfois jour après jour, et cela pendant 10 ans, la vie des uns et des autres sur ces aires qui constituent autant de milieux de vie. Elles sont réalisées sur calque, de manière à pouvoir être ensuite rapportées à des fonds de cartes communs et à pouvoir être comparées entre elles. C'est là la dimension expérimentale de la chose. Très différente de facture, ces cartes disposent de légendes communes, et je vais vous en montrer quelques-unes, qui sont extraites de 2 séries différentes, réalisées dans 2 aires différentes de vie, l'une de 74 et l'autre de 75. Alors ça, c'est la série de 74. Là, c'est la série de 75. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces cartes ? On voit, par exemple, en bistre, les trajets coutumiers de la vie sur le territoire, pour les activités les plus quotidiennes. Et puis on voit à l'encre de Chine, hein, ici par exemple, vous avez dessiné ces trajets, ces lignes d'air des enfants, qui la plupart du temps se terminent par des petites fleurs noires, hein, qui peuvent être plus ou moins importantes, hein, dans leur, par exemple ici, hein, vous avez des fleurs noires qui sont assez grosses parce qu'il y a visiblement virevolte, gambade, mouvement de main, il y a toute une allégresse, il y a quelque chose qui là véritablement a pris la forme d'une gestuelle beaucoup plus affirmée. Vous avez la forme de ce radeau que vous retrouvez dans toutes les cartes, qui sont ces lieux où se déroulent les activités coutumières et où, on pourrait dire, des enfants et des adultes coexistent, mais sans se parler, sans se regarder, sans agir ensemble. Vous avez également sur ces cartes voilà, ces lignes sinueuses qui indiquent les gestes qui ont été faits par les adultes, mais sans aucune espèce d'intention, de façon complètement, vraiment par inadvertance, et dont on a réalisé qu'ils avaient provoqué chez tel ou tel enfant une sorte d'écho, hein, sous la forme d'un geste, d'un cri, d'un déplacement. Vous avez également, sur ces cartes, ces cernes blancs, dans lesquels on voit que différentes lignes d'air se retrouvent, ce qui suppose que les enfants, là, sont aimantés par on ne sait quoi, hein, par un espace que rien ne vient caractériser, mais où, précisément, ils se retrouvent. Et puis, vous avez, là, par exemple, en haut, ces cernes sombres, et puis toute cette activité, hein, visiblement, de intense des enfants, qui sont, en général, des objets, des pierres, une auge, un tronc d'arbre, où se déroulent des sortes de micro-rituels, hein, où parfois, d'ailleurs, les adultes peuvent être impliqués. Et ensuite, on voit apparaître, ici, dans ce Y, un endroit tout à fait particulier que Deligny appelle un chevêtre, qui est un endroit où un adulte ayant fait un geste, l'enfant a repris ce geste pour développer une activité commune. C'est-à-dire, c'est un moment où, véritablement, le faire quelque chose de l'adulte et l'agir pour rien d'un enfant, hein, cette action sans but apparent, se sont engrenés de telle sorte que visiblement ici, hein, surgit, hein, un milieu, le milieu a pris, un lien est là, qui a pris la forme d'un faire commun. Ce milieu, c'est ce que Deligny appelle un milieu commun. Hein, c'est que tout d'un coup, là, entre eux là et nous là, quelque chose existe. On y découvre de la relation sans regard, sans mots, sans signe intentionnel, une forme de communication singulière, se tissant non pas entre des sujets, mais en quelque chose. Cette tasse, ce bout de bois, cette galette, etc. Nous y sommes confrontés, dit Deligny, à ce fond commun autiste que nous avons tous en permanence. Mais au fond, ces interprétations deligniennes de sa propre expérimentation sont moins intéressantes que ce que découvre la comparaison entre les cartes calques qui ont été réalisées sur une dizaine d'années de ces trajets d'enfants qui ont séjourné là, très souvent, hein, non pas ensemble, parce qu'ils ne restent là que pour des séjours relativement brefs de quelques mois, hein, et que, très souvent, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, à des années de distance, tous les enfants révèlent les mêmes comportements. Par exemple, on réalise que tous les enfants ayant vécu sur une même aire de séjour, comme on peut le voir ici, hein, vous voyez, c'est une aire de séjour, aucun des enfants n'a jamais dépassé ce tracé circulaire externe. Sans aucune raison, sans que rien ne rende nécessaire, hein, cette sorte d'auto-limitation des trajectoires des enfants. Comme si tous ces enfants partageaient à travers le temps, par-delà le temps, un même territoire centripète, distinct de ce qu'a pu être ce lieu au tenté où eux-mêmes y ont séjourné. Comme si véritablement, là, il y avait un territoire inscrit dont on ne voit rien et qu'il ne saurait transgresser. Autre constat que sans s'être jamais croisés, les enfants ont des comportements stéréotypiques aux mêmes endroits, des endroits où on ne voit rien de particulier, hein, mais où, en général, on sait qu'il s'est produit un événement important pour la communauté. Par exemple, la foudre est tombée, il y a une source, mais qui s'est tarie, il y avait un potager, hein, il y avait un arbre, etc. Tout cela s'est effacé, mais tous les enfants se retrouvent aimantés par cet endroit. C'est ainsi que Deligny écrit « Il y en a du nous, dans ce trajet-là, repris, pris à nouveau, ce nouveau du passé ayant, à ce qu'il en paraît, plus d'attrait que la chair et l'os et le souffle et le regard de l'un de nous là, présent ces jours-ci. » Donc les lignes d'air des enfants sont aimantées par un même passé, et le lien qui se découvre est de l'ordre d'une mémoire commune et non d'une vie actuellement partagée. Troisième constat, hein, parmi évidemment bien d'autres, c'est que les enfants nous repèrent et que donc nous sommes repérables, nous sommes nous aussi traçant sans le savoir nos propres lignes d'air en fonction de cette mémoire même qui oriente les déplacements et les agirs des enfants dans l'espace. Ainsi, ce milieu commun qu'on voit dans le Y de cette carte, hein, ce milieu commun, eh bien, il n'est pas social, il est mémoriel. C'est un milieu mémoire. Deligny le nomme corps commun. C'est au fond un tissu dont on pourrait dire que la chaîne est coutumière et quotidienne, qui est faite des usages, hein, des présences proches des enfants, mais dont la trame est hallucinée et qui échappe totalement à notre regard. En faisant émerger la constellation des formes de ce milieu mémoire, les cartes interrogent nos convictions sur la définition de l'espèce humaine comme communauté de sujets vivants, parlant, pensant ensemble dans un même espace-temps social. Ici, ces enfants humains qui, d'évidence, ne prennent pas part à cette communauté parce qu'ils ne sont pas passés sous l'équerre de la langue et qu'en ce sens, ce ne sont pas des sujets, ils nous perçoivent ailleurs que là où nous croyons être. Un ailleurs où nous sommes, d'une certaine façon, encore et toujours pris dans un réel humain qui prélude au lien social et qui peut-être le conditionne. Pour conclure, je voudrais citer un extrait d'un interview de Lévi-Strauss qui date de 1979 et que Deligny lui-même cite dans un texte qui s'appelle « Singulière ethnie ». Lévi-Strauss écrivait « L'homme, commençant par respecter toutes les formes de la vie, en dehors de la sienne, se mettrait à l'abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l'humanité même. » Tout en citant ce texte et en disant à quel point il y adhère, Deligny répond à Lévi-Strauss par écrit interposé et il lui dit « Mais comment respecter ce que nous ne pouvons percevoir, hein, qui est le cas, hein, de ces trajets, de ces enfants, de ce milieu commun. » C'est une question, je crois, que nous pourrions étendre à bien des modes de méconnaissance et qui remplacerait très utilement un certain nombre d'interrogations fallacieuses quant à l'identité de l'autre et du même. En tout cas, ces cartes semblent offrir un début de réponse. Elles montrent qu'en l'occurrence, le respect pour ce que nous ne pouvons percevoir consiste à assumer le jugement de valeur que porte la forme de vie de Jean-Marie sur la forme de vie des sujets parlants que nous sommes. Non pas évidemment pour moraliser ni pour politiser à tort et à travers, comme on le fait trop souvent, mais pour prendre la mesure de ce que la valeur d'une vie ne se distingue pas de sa forme et de manière, au fond, à juger ou à regarder notre vie à la possibilité de produire des formes siennes et à l'aune, justement, des formes qu'elle produit. Et je crois que c'est une espèce de manière de déplacer bien des problèmes qui sont posés aujourd'hui sur, au fond, qu'est-ce qui fait communauté dans l'humain, que plutôt que de chercher, au fond, des réponses idéologiques à ces questions, on commence par regarder, effectivement, quelles sont les formes que notre vie produit, forme de temps, forme d'espace, rythme, figure. Et il semble que, effectivement, la question soit alors de savoir si cette vie a la possibilité de produire des formes siennes, mais ça, c'est encore tout à fait une autre histoire. Merci, encore désolée de ce petit...